Tout ce que j'ai, c'est toi. Amen. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Ce matin, j'aimerais vous parler de la vérité vis-à-vis du faux. Il y a beaucoup de faux aujourd'hui. Beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de faux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Personne vient au Père que par moi. On aimerait tellement inclure tout le monde dans la foi évangélique. On aimerait inclure tout le monde dans la foi biblique. Mais ce n'est pas possible, c'est que par Jésus. Et il y a vraiment une tendance à vouloir être tolérant et vouloir permettre que tout le monde puisse sauter la barre et dire, oh, ce n'est pas important si c'est Jésus, si c'est Bouddha, si c'est ci, si c'est ça. Et il y a vraiment un mouvement œcuménique qui est dangereux. Sachez-le, un mouvement œcuménique qui est très dangereux. Et notamment, donc, il y a plusieurs églises qui sont en train d'essayer de chercher à avoir une communion avec les uns, avec les autres. Mais une communion, c'est seulement avec ceux qui marchent dans la lumière. Amen. Avec ceux qui croient en Jésus-Christ, qui marchent comme Jésus a marché. Donc c'est ça, c'est là où il y a la vraie communion. Mais moi, je fuis toutes sortes d'alliances et de concordances avec des personnes qui se disent « Non, mais on peut prier avec n'importe quel imam, n'importe quel donc, pasteur réformé, libéral, n'importe quel pasteur du témoin de Jéhovah, mormon, etc., bouddhiste, donc, etc., etc. » Mais il y a vraiment un cri dans le cœur de Dieu qu'on soit de ceux qui marchent dans sa vérité. Qu'on marche dans les enseignements de sa vérité. Si on connaît bien la vérité, on ne pourra pas se tromper quand on est face au faux. Mais si on s'intéresse trop à connaître le faux, et il y a des personnes qui ont cette tendance à vouloir connaître le faux en détail, etc., etc., quand ils ont complété une vérité, ils se disent « Ah, mais c'est une autre opinion ». Mais vous savez, la vérité de Dieu n'est pas une opinion, alléluia. Ce n'est pas une opinion. Ce n'est pas un alternatif non plus à une pensée particulière qu'on peut avoir. Et certaines conclusions qu'on peut tirer par rapport à certains enseignements, éléments qu'on trouve même dans la Bible. Mais c'est tellement important qu'on marche dans la vérité. Jean disait en 2 Jean, c'est qu'un seul chapitre, et le verset 3 et 4, j'ai été fort réjoui. Pardon. C'est 3 Jean, effectivement. Troisième épître de Jean. J'étais fort réjoui aussi lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 3, si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, c'est la preuve que nous connaissons Dieu. Si nous ne gardons pas ses commandements, c'est là où on se pose la question, est-ce que nous l'avons vraiment connu? Vous rappelez en Matthieu chapitre 7, il est dit, il y a ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup, beaucoup de choses en ton nom. Parce qu'il est dit que c'est à leur fruit que vous les connaîtrez. Mais ensuite, lui, il va dire, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas parce que ceux qui font la volonté de mon Père, ce sont ceux qui me connaissent. Ce n'est pas seulement les œuvres, oui, les œuvres sont importantes, mais nous grandissons toujours dans une connaissance de Dieu et de sa vérité. Alors verset 4, celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui demeure, qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Verset 18, « Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris d'alors qu'un antéchrist vient. » Et il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. À l'époque, c'était déjà la dernière heure. À l'époque, c'était le commencement déjà de la fin des temps. En Apocalypse, lorsque Jean a eu cette révélation, c'était déjà le commencement de la fin des temps. Et c'est pour ça que Paul va avertir en Thessaloniciens, il va dire, si quelqu'un vous dit que le retour de Jésus a déjà eu lieu, ne vous laissez pas séduire. Parce que Jésus reviendra. Et là, il explique comment il reviendra. Mais ici, il dit, il y a déjà l'esprit de l'Antéchrist. Et il y a l'esprit de l'Antéchrist ici dans le monde aujourd'hui. Il y a l'esprit de l'Antéchrist qui ne veut pas déclarer Jésus Seigneur, qui ne veut pas déclarer Jésus Sauveur. Et il y a toutes sortes de personnes qui sont en train de faire de remplacement ou de substitut de Christ. Et c'est pour ça qu'il faut que nous on le connaisse, que nous on connaisse Dieu, qu'on connaisse Christ, qu'on connaisse le Saint-Esprit, de telle manière que nous ne serons pas séduits. Parce qu'il y a toujours des avertissements dans la Bible par rapport à la séduction par les philosophies, par les faux enseignements. Alors ces antéchrists sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car celui c'était des nôtres, il s'est demeuré avec nous, mais cela est arrivé afin que tu manifestes que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Est-ce qu'on grandit dans cette connaissance? Est-ce qu'on va croître dans cette connaissance de Dieu? Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. L'Esprit de l'Antéchrist nie le Père et le Fils, nie Jésus. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui pourraient vous égarer. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne d'autres choses de plus. Mais quand son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dans les enseignements que nous recevons, dans les instructions que nous recevons, Colossiens chapitre 1 et verset 28 nous dit, celui que nous vous annonçons, exhortons tout temps, mais instruisons tout temps, l'instruction, en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, disait l'apôtre Paul, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et le verset 4 nous dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Voyons avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. Le psaume 19 nous dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. L'étendue raconte que Dieu est le Créateur. C'est une chose. Mais par la suite, au verset 8, après avoir parlé de cette révélation naturelle que nous voyons dans la création, au verset 8 du psaume 19, il dit « La loi de l'Éternel, elle est parfaite. » Il nous fallait une révélation divine. Il nous fallait une révélation écrite. La révélation naturelle ne nous menait pas au salut. La révélation naturelle, voilà, on constate les cieux manifestent la grandeur de Dieu, mais ça ne nous sauve pas. Ce qui nous sauve, c'est le psaume 19, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Est-ce que ton âme a été restaurée? Vous savez, nous sommes sauvés. D'accord? On est content d'être sauvés. Mais après être sauvés, après avoir eu cette rencontre avec Christ, il faut que notre cœur soit guéri. Il faut que notre âme soit guérie. Et s'il y a besoin de délivrance, il faut que la délivrance se passe, mais juste après la conversion. Il faut que la personne sache qu'il ne peut plus donc, traîner dans la voyance, traîner donc avec les marabouts, traîner dans l'horoscope, traîner dans la sorcellerie. Je vous ai parlé de ce couple là-bas, donc à Dieppe, qui ont été vraiment sous l'emprise de la sorcellerie depuis 30 ans. Et petit à petit, Dieu est en train de les sortir d'une mentalité dans laquelle ils étaient sous l'emprise, une emprise satanique. Alors elle se disait convertie depuis 20-30 ans, mais toujours elle se plaignait, toujours elle était en train de murmurer contre Dieu. Elle ne voulait pas lire la Bible depuis 30 ans, elle s'en refusait. Lui, il ne s'était pas converti. Mais Jean-Claude s'est converti il y a un mois, et donc je l'ai vu cette semaine, il m'a dit « Marc, mais qu'est-ce que j'ai la paix de Dieu dans mon cœur, mais Dieu est en train de me délivrer, je suis en train de voir les choses différemment. » Je me rends compte que ma femme, elle avait pris un faux chemin parce qu'elle ne voulait pas lire la Bible. Et il a dit « Moi je commence à lire la Bible, je commence à voir comment Dieu est en train de restaurer ma vie. » Une fois qu'on est sauvé, on est guéri, si on a besoin de délivrance, on est donc délivré. On passe par la monde dans lequel le Saint-Esprit, avec l'onction qu'il donne, il libère de toute emprise satanique. Et ensuite, on devient disciple. Et ensuite, on devient équipé. Les cinq ministères sont donnés pour équiper les saints. Ils sont donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Ensuite, on est rendu capable, on est capacité en lui. Et ensuite, on est rendu prêt à servir les desseins éternels de Dieu. Il ne faut pas brûler les étapes. Des fois, on se dit, bon, la personne est sauvée, immédiatement, il va devenir disciple. Non. Il faut qu'il y ait ce temps. Et c'est pour cela qu'ici, dans notre église, donc, j'aimerais bien continuer à le mettre en place. Mais quand quelqu'un se convertit, avant qu'il fasse les cours de base, il faut que cette personne soit accompagnée, que cette personne sache qu'il y a une délivrance en Christ, qu'il y a une guérison de l'âme. Et une fois qu'ils ont vraiment vécu ce premier pas, alors là, ils peuvent commencer à envisager, parce qu'ils entendent parler du baptême, et se dire, mais alors, moi je crois que je dois obéir, et je dois suivre donc le baptême. Donc, ne pas se faire baptiser, c'est en désobéissance. Donc quand la personne va vouloir apprendre à obéir la parole de Dieu, elle va vouloir premièrement se faire baptiser, c'est instantané. Pourquoi? Parce que c'est une identification avec la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, et avec le fait qu'on va enterrer le vieux homme et qu'on va ressusciter en nouveauté de vie, chose qu'on a déjà vécue dans notre fort intérieur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle reste en âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. La vérité, ils rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, ils réjouissent le cœur. Obéir Dieu réjouit mon cœur. C'est ça que le psalmiste disait. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'enfants. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Pour serviteur aussi, on reçoit instruction. Pour qu'ils le servent, la récompense est grande. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Car celui qui a la foi, il croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a une grande récompense pour ceux qui observent ses commandements. Hébreux chapitre 5, verset 11 à verset 14, il nous dit que nous ne devons pas être des enfants parce que nous devons avoir un discernement pour pouvoir donc reconnaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, verset 11. Et c'est chose difficile à expliquer, parce que l'auteur disait, parce que vous êtes devenu lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. En quiconque est au lait n'a pas été l'expérience et la parole de justice, car il reste un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Cette année, nous célébrons, et on célèbre dans le monde entier, les 500 ans de la réforme. 500 ans. En 1557, c'est là quand Martin Luther, il a mis sur une grande porte donc, de la grande cathédrale des thèses pour montrer quels étaient les points dans lesquels l'Église catholique universelle déviait de la parole de Dieu. Déviait de la pratique de la parole de Dieu. Et c'est là où le luthérien donc est né. C'est là où c'est le luthérien qui l'avait fait. C'est là où la persécution est venue. Parce que, voilà, la réforme s'était basée sur le fait qu'on va maintenant devenir un peuple de la parole de Dieu. Les Mormons, ils ont leur Bible et ils ont le livre des Mormons. Les témoins de Jéhovah, ils ont leur Bible, mais ils ont les écrits de Russell. On dit qu'il y a beaucoup de versets de la Bible qui sont contenus dans le Coran, mais ce n'est pas la Bible, le Coran. Et ainsi de suite. Il y a les écrits de Confucius, de Bouddhisme, qui incluent les passages de la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Il y a dans l'hindouisme, il y a dans des passages aussi qui sont pris de la Bible, mais ce n'est pas la Bible. Il y a des écrits, nous avons une parole. Et alors, dans la réforme, il y avait cette devise. Sola fide, seulement par la foi. Sola gratia, seulement par la grâce. Sola scriptura, seulement par les Écritures. Et alors, notre critère, quand on lit et quand on reçoit et quand on vit l'enseignement qu'on reçoit de la part de Dieu, doit être basé sur ces trois choses. Seulement par la foi, seulement par la grâce et seulement par les Écritures. Mais il y a sept critères par rapport à comment on évalue l'enseignement que nous recevons. Vous savez, il y a beaucoup de livres chrétiens dans les librairies, mais qui sont basés sur des termes intéressants, mais qui ne sont pas des termes absolus et basiques par rapport à la foi. Moi, je connais des personnes qui me disent, mais moi, j'ai lu ce livre par rapport à ce que Dieu a fait dans une telle ville, le réveil que Dieu a fait, et comme il ne le fait pas pour moi, et comme ces choses ne se passent pas dans ma vie et dans mon pays, alors je suis fâché avec Dieu. Et ils lisent plus les livres que la parole de Dieu. Ils lisent plus, donc les témoignages, c'est bien de lire les témoignages, mais chaque témoignage va toujours glorifier le Seigneur, amen. Chaque témoignage va édifier notre foi pour qu'on continue, nous, à dire, Seigneur, nous vivons par la foi, nous vivons par la grâce et nous vivons par la parole de Dieu. Alors il y a sept critères. Si nous voulons recevoir la parole, si nous voulons l'adapter à notre vie, si nous voulons apprendre à nous soumettre à la parole de Dieu, si nous voulons donc avoir ce cœur doux, ce cœur réceptif. La Bible dit, recevez la parole sans murmure. Sans murmure. Combien de fois on lit un passage de la Bible, on se dit, non, mais c'est pas pour moi, c'est sorti du contexte. Mais non, mais le contexte, mais la parole de Dieu est là, c'est pas sorti du contexte, la parole de Dieu. Sans murmure. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, Jacques chapitre 1, verset 19. Mais sans murmure. Il y a cinq questions qu'on se poserait. Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus l'a fait? Ce que je reçois comme enseignement, est-ce que Jésus l'a fait? Deuxième question, est-ce que Jésus l'a enseigné? Parce qu'en Actes des Apôtres, au chapitre 1, il dit, Théophile, je vais te dire et je vais continuer à te raconter ce que Jésus a commencé à dire et à faire. Et c'est pour ça que le livre des Actes des Apôtres devient, quelque part, une continuité dans la vie de l'Église, qui allait voir le jour de la Pentecôte, et dans lequel l'Église allait continuer à dire et à faire ce que Jésus avait commencé dans les Évangiles. Donc, est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus l'a enseigné? Moi, j'ai eu des personnes qui me disent, mais vous êtes un peu bornés. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, qui sont des nouvelles révélations pour les derniers temps. Alors, il faut qu'on soit ouvert. Ah bon? Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus l'a enseigné? Se trouvait-il dans les quatre évangiles? Ou dans trois évangiles? Vous savez, dans les évangiles, nous avons ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Cela veut dire qu'il y a certains évangiles dans lesquels on ne trouve pas les mêmes histoires racontées par Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais est-ce que se trouve-t-il cet enseignement dans les évangiles? Est-ce qu'il y a un brin donc dans lequel nous nous rendons compte qu'il y a une racine dans les évangiles? Est-ce que l'Église primitive, quatrième question, quatrième critère, néo-testamentaire, l'a pratiqué? Est-ce que déjà nous pratiquons tout ce que l'Église néo-testamentaire a pratiqué? Mais est-ce que l'enseignement est pratiqué dans le livre des Actes des Apôtres? Et cinquième question, est-ce qu'on trouve mentionné dans les épîtres de Paul, Pierre, Jacques et Jean la référence à un tel enseignement? Par exemple, nous avons les épîtres pauliennes, donc les épîtres de Paul, Romains, 1 Corinthiens, Galates, Éphèse, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, 1 Timothée, Tite, Philémon. On arrive à Hébreux, le consensus c'est que c'est Paul qui l'a écrit parce qu'il y a beaucoup de écritures similaires qu'on trouve, mais toujours est-il, il y avait toujours le souci dans le cœur de l'apôtre Paul que l'Église et que les Églises locales restent attachées à la doctrine de Christ, restent attachées à la vérité. Ensuite, il y a les épîtres pastoraux. C'est pas pastoral, donc c'est Jacques, un de Pierre, un de toi Jean et Jules. Et après, on arrive à Apocalypse, donc il y a la révélation donc, du Fils de Dieu donnée donc, à l'apôtre Jean. Donc, dans les épîtres, est-ce qu'on trouve mentionné dans les épîtres la référence à des tels enseignements? Je vous donne un exemple. Le fait de se laver les pieds. Jésus l'a fait. Jésus l'a dit. C'est dans les évangiles. Mais on n'en parle plus dans les actes des apôtres. Et on n'en parle plus dans les épîtres. C'est intéressant. Un critère. Et c'est pour ça qu'on ne se lave pas les pieds les uns aux autres. Des fois, ça serait intéressant de le faire. Il y a un frère qui est venu ici, donc l'Aristoxtile. Donc il nous rendra visite certainement donc, au printemps prochain. Donc ce frère, il y avait quelqu'un dans sa ville que chaque fois qu'il était à la radio, à la télé, il attaquait le Fernand. Il attaquait leur église, il attaquait pour tout ce que je suis en train de faire dans leur vie. Et un jour, Larry a eu l'idée et il a téléphoné à la secrétaire de ce pasteur qui aussi avait des grandes églises, des méga-églises, et il lui a dit, est-ce que je pourrais avoir un rendez-vous avec le pasteur? Alors donc, elle a fixé un rendez-vous, et il lui a dit, et lui aussi, donc voilà, j'aimerais avoir une petite heure avec lui, je sais qu'il peut-être qu'il ne peut pas me voir, peut-être quand il entend mon nom, voilà, donc c'est pas comme la joie, mais est-ce que je pourrais le rencontrer? Et aussi, il lui a dit, est-ce que vous pourriez me tenir donc, de côté un petit bassin? Donc, donc tout simplement, sans lui dire pourquoi. Et quand il est arrivé, pour voir ce frère qui le critiquait, qui était toujours en train de l'attaquer depuis des années, et il remplit le bassin avec de l'eau avant de rentrer au rendez-vous, il avait avec lui donc une serviette, et il rentre dans le bureau, et le pasteur le reçoit, il lui dit « Asseyez-vous », et il s'assoit, et il commence à lui laver les pieds. Et quand il a fait ça, le pasteur a fondu en larmes. Il s'est rendu compte que par ce geste, il y avait du pardon dans le cœur de Larry. Il ne voulait pas qu'ils soient en guerre, tous les deux, parce qu'ils étaient des prédicateurs, ils avaient des jalousies, etc. Alors, c'est intéressant, c'est une pratique qu'il a faite. Mais ce n'est pas, ça ne remplit pas les 7 critères. Jésus avait les pieds de ses disciples. Il leur a dit qu'il voulait leur présenter un exemple d'humilité, un exemple de service. Et donc, bon, vous lisez en Jean chapitre 13, vous lisez comment Pierre ne voulait pas, etc. Mais ce n'était pas un enseignement, une doctrine enseignée. On peut faire référence dans un message par rapport à l'humilité que Jésus avait. Oui, la doctrine de Jésus était « Je suis doux et humble de cœur ». Là, oui. Je suis doux et humble de cœur. Mais les avoir d'autres qui sont chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Mais c'est mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Là, on trouve dans les évangiles, il était doux et humble de cœur. Dans Actes des Apôtres, il parlait de Jésus dans sa douceur, dans les épîtres de Paul et dans les épîtres pastorales, la même chose. Pratiqué aussi dans l'Église testamentaire. Alors, par exemple, on s'est dit, mais alors quels seraient les enseignements qui remplissent les 5 critères? Les enseignements, c'est le salut et la repentance par la foi. Absolu. On ne peut pas contourner. Le baptême d'eau, on ne peut pas contourner. Le baptême du Saint-Esprit, nous croyons au baptême du Saint-Esprit. Quant à nous, nous ne pouvons pas le contourner. Mais il y a beaucoup d'églises, beaucoup de dénominations qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit, qui ne croient pas en parler en langue, qui ne croient pas au don spirituel. Pourquoi? Parce qu'il dit en 1 Corinthiens chapitre 13 que la prophétie prendra fin, que ces dons, ces signes prendront fin. Et alors il se dit, voilà, il a pris fin au moment où, donc, dans le livre des Actes des Apôtres, donc, l'apôtre Paul, donc, il a rencontré l'église de Corinthe, et c'est à partir de là, à partir du jour de la Pentecôte, il n'y a plus rien à attendre. Alors, nous, on croit au baptême du Saint-Esprit. Est-ce que les personnes qui ne croient pas au baptême du Saint-Esprit vont aller en enfer? Non. C'est l'ignorance qu'ils vivent actuellement. Ils vivent par ignorance, oui, ils vivent par la foi, ils croient la même Bible, mais ils ne veulent pas s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Nous sommes une église locale que nous voulons nous ouvrir à l'action du Saint-Esprit. Nous voulons nous ouvrir aux dons spirituels. Les dons spirituels, c'est pratique, c'est une doctrine. Le service rendu les uns aux autres et le service aussi que nous rendons au Seigneur. Ça, c'est donc des doctrines, des enseignements qui étaient enseignés par Jésus, qui étaient faits par Jésus, qui se trouvent dans les évangiles, qui ont été pratiqués dans l'Église testamentaire, dans le Nouveau Testament, et qui se trouvent aussi mentionnés dans les épîtres de Paul, Pierre et Jean. Alors, quand on voit aussi, par exemple, Actes chapitre 3, verset 19 et verset 20, nous dit « Répentez-vous et convertissez-vous pour que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et moi, je connais des personnes qui ont cherché les temps de rafraîchissement sans vouloir passer par la case repentance et conversion. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent croyants aujourd'hui dans les églises évangéliques, mais qui ne sont pas pratiquants de la foi. Ils n'ont pas eu une expérience réelle avec Dieu. Donc, on leur a peint les choses de telle manière, bien Christ dans tes problèmes, présente-lui tes bourreaux, présente-lui tes peines, etc. Il va soulager ton cœur. Oui, il va soulager ton cœur, mais il y a beaucoup plus que ça. La repentance, c'est pour ça qu'une fois qu'une personne se convertit, il faut qu'il comprenne qu'est-ce que c'est la repentance. Comment pouvoir avoir accès à cette présence de Dieu. Les temps de rafraîchissement sont importants, mais il ne faut pas valoriser plus les temps de rafraîchissement que le temps de la repentance et le temps dans lequel on s'humilie devant Dieu. Par exemple, la repentance, Jésus l'a prêché en Marc chapitre 1, verset 14 à verset 15. Ensuite, Jean-Baptiste l'a pratiqué en Matthieu chapitre 3 et verset 2, quand il va prêcher le baptême de repentance. Et même Jésus va prendre le baptême de repentance vers la fin, donc Matthieu chapitre 3, verset 21. Il va être baptisé pour s'identifier, donc à ce baptême de repentance. Parce qu'une fois que la personne s'était repentie, une fois que la personne avait compris qu'il fallait mourir au péché, une fois que la personne avait compris qu'il fallait lâcher le monde et laisser que les fruits, donc l'arbre fruitier dans le monde porté, ne soit plus porté, à ce moment-là, il fallait qu'il vive la repentance. Et après la repentance, venait le baptême. Pierre, il va parler aussi, dans le livre des apôtres, de la repentance. Paul va parler en Actes chapitre 26, verset 20, de la repentance. Et ensuite, nous voyons dans les épîtres suivants, dans les livres d'Apocalypse, cinq de sept églises sont appelées à la repentance. Bon, ça, c'est un enseignement que nous ne pouvons pas contourner. Beaucoup de personnes se basent sur le ressenti. Beaucoup de personnes, voilà, par exemple, quand moi je prie avec quelqu'un et qu'ils acceptent Jésus dans leur cœur, et nous avons déjà fait des mises en situation, pour savoir comment amener quelqu'un à Christ. Quand j'amène quelqu'un à Christ, il faut que je sois responsable de l'emmener au pied de Jésus, de l'emmener à la repentance, de l'emmener à la foi, de l'emmener à vraiment véritablement vivre la victoire en Christ. Pourquoi? Parce que c'est ma responsabilité. Je vous ai déjà dit que des fois on dit tous, oui Seigneur, ça serait bien qu'on ait tous un petit bébé spirituel dans les bras. Hein? Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à faire des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut du temps. Pour faire des disciples, il faut s'investir dans la vie de ces nouveau-nés dans la foi. Mais alors, beaucoup de personnes se disent, non mais, voilà, je ne sens rien. Alors, j'ai eu des personnes me dire, oui, j'ai prié, j'ai reçu Christ en mon cœur, je ne sens rien. Mais ce n'est pas par rapport au ressenti. C'est le fait que tu as voulu t'approcher de Dieu. Celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approche de lui. Nettoyer mon âme pécheur, purifier mon cœur pour mieux résoudre. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. La personne vient à Christ, il commence à marcher dans les voies de Dieu, mais ce n'est pas par le ressenti. Il faut un équilibre pour qu'il y ait un discernement entre ce qu'on ressent être de la part du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit m'a dit, et ce qui est subjectif, et ce que la parole de Dieu, inspirée du Saint-Esprit, m'enseigne, ce qui est objectif. Moi, je connais des personnes qui vivent sous le ressenti. Mais ça ne change rien. Un homme marié ne peut pas se réveiller au matin en disant « Je ne me sens pas marié ». Mais non. Non, il est marié jusqu'à la mort ne sépare. Il est marié, il est attaché à l'alliance jusqu'à ce que la mort ne sépare. Alors, nous ne voulons pas, nous ne vivons pas sous le ressenti. Combien de personnes vivent selon le ressenti? Nous, en tant qu'Église, une assemblée vivante, nous voulons être une église qui prêche toute la parole de Dieu, avec hardiesse et avec onction. Et comme résultat, nous allons adorer le Dieu, Dieu en esprit, en vérité. Nous allons aussi répondre aux besoins spirituels des croyants obéissants et engagés. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des personnes qui ont des besoins, mais qui sont basées sur le ressenti. des personnes qui ne veulent pas la parole de Dieu. Récemment, j'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit à 700 jeunes, « Mais si vous n'avez pas lu la Bible, priez en langue un coup, Dieu vous comprend. » Ah bon? Mais c'est pas ça. La prière en langue, c'est pour s'édifier soi-même. Le parler en langue, c'est pour, avec interprétation, donner un message à l'Église et édifier l'Église. Mais ce n'est pas pour remplacer la parole de Dieu. Ce n'est pas pour remplacer la parole de Dieu. Nous voulons être une église, une congrégation qui rend un service à Dieu, qui rend un ministère à Dieu, par la prière qu'on lui adresse. Est-ce qu'on prie le Seigneur véritablement? Ou est-ce que c'est seulement un réflexe lorsqu'on est dans un problème, dans une difficulté? Seigneur, voilà, je fais appel à toi, je frappe à la porte. Viens à mon secours. Seigneur, je suis là, et on s'agite, et Seigneur, ne m'oublie pas. Est-ce que toi, tu m'as oublié? J'aime beaucoup ce chant qui dit « Aujourd'hui je reviens vers toi pour invoquer ton nom, car je sais que tu oublieras les moments abandonnés. Je viens à toi pour te remercier, car tu demeures fidèle. Je suis venu te dire que je t'aimais. » Combien de fois on vient vers Dieu et on n'a pas pris conscience de ce que cela signifiait pour lui, le fait qu'on lui adresse une prière, qu'on communique avec lui, qu'on ait une relation avec lui, qu'on ait une communion avec lui. Voici, je me tiens à la porte, Apocalypse 3:20, et je frappe, et si quelqu'un veut ouvrir la porte, qu'il ouvre la porte, et je rentrerai, et je viendrai, je souperai avec lui, et j'aurai cette relation, cette communion avec lui. Et il disait à l'église, mais ne fermez pas la porte de votre cœur. J'ai encore des choses à vous montrer, j'ai encore des choses à vous dire, mais ouvrez la porte de votre cœur. Alors une église, que oui, le résultat sera la louange, l'adoration, sera surtout les actions de grâce, ne pas murmurer, mais avec des actions de grâce, nous approcher de Dieu. Une église locale qui va travailler au perfectionnement des saints, qui va travailler en priant, en exhortant, en consolant, en aidant, en donnant des conseils de la parole de Dieu, mais aussi une église qui a une attitude envers le monde, une attitude de compassion, une attitude d'amour, une attitude qui prêche toujours un évangile de salut, une attitude qui a un cœur de serviteur. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, verset 3 nous dit, si l'évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, en qui le Dieu de ce siècle a révélé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Le diable ne veut pas que les gens découvrent la splendeur de l'évangile de Christ. Et ensuite il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Christ. Comment allons-nous toucher la foule? Comment allons-nous toucher les personnes? Je suis revenu tard le Dieppe, mercredi soir. Et le lendemain, donc voilà, j'ai bien, donc je me suis arrêté aussi pour me reposer un peu, parce que je suis parti de là-bas à 11h30 presque. Et je suis arrivé ici vers 4h du matin. Et je n'avais jamais vu, il faisait une chaleur impossible, vous vous rappelez, la nuit de mercredi avant le jeudi. Et c'était donc la fête de la musique, en plus. Alors, je reviens sur le canal, et il y avait des centaines de personnes perdues, qui avaient bu, qui se bagarraient. Il y avait des filles en sous-vêtements, des garçons en se marchant aussi, mais en libre. C'était... Je me suis dit, mais sur quelle planète je tombe? Sur quelle planète je tombe? Et c'était intéressant parce que vous savez qu'il y a plusieurs Afghans qui habitent dans un immeuble, qui habitent donc derrière des barres. Je ne sais pas si vous marchez dans ce sens, vous voyez qu'il y a des cartons. Il y a une cinquantaine qui habitent là-dedans. Qui habitent là-dedans. Bon, c'est des arbres qui avaient été dans le parc de l'humain, qui avaient été chassés. Et donc, ils sont revenus, et là, maintenant, on les laisse vivre là. Je vois que tous les bureaux ont fermé, donc, voilà, c'est un peu comme des chambres qu'ils ont. Et ils étaient tous là, donc, en mon hauteur, en train de regarder la scène. J'ai dit, Michel, comment je me disais, mais eux, toi, tu dis, sur quel plan est tombé? Parce que, et je me disais, mais Seigneur, comment est-ce que nous, on peut avoir un impact auprès de ces personnes? C'est incroyable! Et si Dieu nous donne la compassion, nous donne l'évangile de salut, nous donne un cœur de serviteur et nous donne donc l'ordre de mission que nous sommes des ouvriers, alléluia, pour la moisson. C'est là qu'on va le faire. Un équilibre. Savoir que le Seigneur, il place la vérité devant nous. Mais aussi, il nous fait comprendre qu'il y a un grand besoin qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ se révèle. J'étais à une conférence des pasteurs, là, donc une réunion des pasteurs récemment, ici à Paris. Et le pasteur principal nous a attirés. Aux États-Unis, il y a 4000 églises qui s'ouvrent par an. Mais il y a 8000 qui ferment. Choc. On était tous là. Quoi? 4000 qui s'ouvrent et 8000 qui ferment. En France, il y a 2341 églises. Il y a des églises qui s'ouvrent, j'entends dire, peut-être une tous les 10 jours. Alléluia! Mais aussi, il y a des églises qui ferment. Et alors, ce pasteur nous a choqués. Et j'aimerais donner quelques statistiques qu'il nous a données. Des statistiques qui nous font réfléchir et qui nous pousseraient à nos genoux. 60% des chrétiens, entre guillemets, assistent au culte. C'est Barna. Barna, c'est une société de sondage chrétien des églises qui travaillent dans le monde entier, dans les œuvres missionnaires et partout. 15% des croyants lisent leur Bible. Où sont-ils les pratiquants? Où sont-ils les pratiquants? En moyenne, au sein d'une église locale, nous continuons à nous choquer, 10% des personnes qui se disent membres assistent rarement. 10%. 20% assistent de temps à autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils cherchent une excuse pour pouvoir venir se rassembler. 25% reconnaissent qu'ils ne prient jamais. 35% ne lisent jamais leur Bible. 40% ne pratiquent pas le fait de donner financièrement leur dîme et offrande. 60% ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour servir Dieu. 70% n'acceptent aucune responsabilité pour servir au sein d'une église locale. 85% n'invitent jamais de nouvelles personnes. Et 95% ne gagnent jamais des âmes pour Christ. Et seulement 2% s'appliquent à faire des disciples. Et pourtant, 100% des chrétiens croyants espèrent aller au ciel. C'est un grand décalage. C'est à nous de prendre. Ça nous a choqué. De penser qu'aujourd'hui, oui, nous sommes plus près de retour de Jésus que jamais. Bientôt, ça fait 70 ans qu'Israël est devenu une nation. Dans la Bible, il parle que la génération qui a vu Israël, devenir une nation, qui relève sa tête car son rédempteur s'approche. Une génération dans la Bible, c'est 70 ans. Alors je ne veux pas qu'on sorte ici en disant, voilà, la date c'est 2018. Non. Vous savez, en 1988, il y avait donc des livres qui ont été écrits. C'était quoi? C'était qu'à 20 raisons pour lesquelles Jésus revient en, donc, le 18 septembre 1988. Alors ça s'est vendu comme des petits pains partout dans le monde entier. Mais Jésus n'est pas revenu. En 89, encore, sans je ne sais pas combien de raisons pour lesquelles Jésus reviendra le 18 septembre 1989. Alors malheureusement, toutes ces personnes qui se sont fait avoir, il y a eu des gens qui ont vendu leur maison, il y a des gens qui ont donné de l'argent à la personne qui prêchait ça, etc., etc. Alors, c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment dangereux pour l'Église. Et vous savez, quand ce pasteur nous a dit ces choses, quand il nous a dit ces choses, mais on était mais complètement... Et tout le monde espère aller au ciel. Tout le monde espère que, voilà, il va mourir et immédiatement dans la présence de Dieu. La Bible dit que ceux qui ont cette espérance en lui-même se purifient comme lui, lui-même il est pur. On a lu en Jean chapitre 2, nous marchons comme Jésus a marché lui-même. La vérité nous affranchira. Est-ce que nous avons tous été vraiment affranchis? Est-ce que la vérité de Christ est véritablement donc ancrée en nous? Avons-nous été restaurés, guéris? Ésaïe 61 nous dit que l'Esprit de l'Éternel est sur nous, sur moi et sur nous en tant qu'Église. Et il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la guérison à celui qui est aveugle, pour annoncer la liberté à celui qui est captif, celui qui est prisonnier. Est-ce que nous faisons partie de ceux sur lesquels l'onction de Dieu vient et que nous cherchons à ce que les gens soient sauvés, guéris, libérés, devenir disciples, soient rendus capables de servir Dieu, soient équipés et ensuite ils puissent servir les desseins éternels de Dieu. J'aimerais vous donner quatre exemples dans lesquels des personnes prennent un verset et ils vont d'un extrême à l'autre. Je crois que c'est vraiment important qu'on s'attarde là-dessus et on arrive à la fin. Marc chapitre 16, verset 17 nous dit: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Un de ces miracles, c'est le fait de parler en langue. Et comme moi, j'ai des personnes face à moi qui sont des personnes qui, dans leur dénomination évangélique, ils ne croient pas en parler en langue. Je dis, mais pourquoi est-ce que Dieu dirait que nous, on est élite? Ça réservé à quelques-uns. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils prieront pour les maladies, ils imposeront les mains sur les malades, et les malades seront guéris. Ils chassent les démons, ils parleront de nouvelles langues. Et s'ils boivent le breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal. Bien sûr, ces choses-là, on les a vues dans le livre des Actes des Apôtres. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Mais notre plainte, c'est, mais on ne voit jamais les miracles. Donc on ne voit plus nos miracles. On ne voit plus nos miracles. Moi, je prierai pour le miracle jusqu'au moment où la personne meurt. Si c'est la décision de Dieu que la personne meurt, ce n'est pas un échappatoire, mais je vais prier jusqu'au moment où la personne ne respire plus. Je vais continuer à frapper à la porte. Il y a ce frère Joe qui est donc à Seattle. Alors lui, il a à sa journée 79 de sourcils. Le médecin lui a dit, il y a 79 jours, vous avez 2 mois et pas plus. Et là, il continue à écrire son blog et il écrit des choses, mais d'une sagesse que Dieu lui donne. Si vous lirez ça, c'est extraordinaire. Et alors il me dit, même si je meurs, ce n'est pas grave, j'ai compris tant de choses avec Dieu maintenant, dans ces derniers 2 mois, dans lesquels j'avais cette épée de Damoclès sur moi, etc. Et chaque fois que je l'ai au téléphone, mais je prie pour lui, et je lui dis, mais on va croire, et on va croire, et il me dit, oui, mais bon, les médecins disent que je n'ai plus rien à faire, que il prend quelques médicaments contre la douleur, mais il ne veut pas non plus être endormi par la morphine, etc. Mais c'est vrai, quand on tombe dans cet extrême, on ne voit jamais des miracles, alors on ne croit pas. Et l'autre extrême, on ne vit que pour les rechercher. Et là aussi c'est dangereux, ça c'est un extrême. Mais restons attachés au fait que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, mais examinez toutes choses. On va éteindre ce qui est bon. Il parle de ne pas mépriser la prophétie, il parle de faire tout pour l'édification, et ensuite il finit en disant, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'extrême, c'est qu'ils examinent tout dans le but de critiquer. Et beaucoup, beaucoup de personnes non charismatiques, de personnes qui sont dans des dénominations qui ne sont pas ouvertes à l'esprit, ils nous critiquent à longueur de journée. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils sont un peu dans la confusion. Ils disent, non, mais il faut examiner toutes choses, il faut retenir ce qui est bon. L'autre extrême, c'est d'accepter tout ce qui est surnaturel sans l'examiner. D'où ça vient? Et c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. À quel moment cela vient de Dieu? Et à quel moment ce n'est pas de Dieu? Le diable est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Mais il y a des personnes qui vont vous témoigner. Je suis allé voir le malheureux, je suis allé voir la voyante, je suis allé voir donc l'homme qui a fait la pendule, et j'étais guéri. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a guéri. Ce n'est pas Dieu qui l'a guéri. Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que cette personne soit guérie? Parce que lui connaît tout. Dieu sait tout, mais il dit examiner toutes choses. Ne pourrait pas derrière les miracles, mais sachant que Dieu est surnaturel, sachant que Dieu est puissant, sachant que Dieu est omniscient, sachant que Dieu est omnipotent, et que nous sommes vraiment assis à ses pieds pour vivre et pratiquer, alléluia, la foi. De Timothée, chapitre 13, 14. retient dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il y a ceux qui tombent dans l'extrême de se laisser guider que par la parole, la lettre de Dieu. Ils sont très très légalistes, ils sont très 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 fermes par rapport si ce n'est pas écrit, etc., de telle manière, etc. Mais ils le font sans le Saint-Esprit qui donne la vie. Jésus même a dit, la parole tue, la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Il faut qu'il y ait l'équilibre avec l'Esprit. Et l'autre extrême, c'est laisser guider que par le ressenti sans la parole. Ah, si vous avez parlé de la Bible, priez en langue un coup, et ça suffira. Passez 20 minutes à prier en langue, et ça ira. Attention! Et le quatrième exemple, Éphésiens 4, 14, 15, ne soyons plus des enfants flottant et emporté à tout vent de doctrine, mais professons la vérité dans la charité et croissons à tous égards. Alors, l'extrême, c'est qu'il se ferme à tout ce qui ne va pas dans le sens de leur doctrine et de leur tradition. Je suis sûr, et c'est chaque église locale, elle est marquée par des traditions et par certaines doctrines, peut-être on met l'accent plus sur une doctrine que l'autre, etc. Mais alors, il se ferme complètement à ce qui va à l'encontre de leur doctrine et tradition. L'autre extrême, c'est que la personne se laisse emporter par tout vent des doctrines, comme un bébé qui n'a pas le discernement, qui en est toujours au lit. Notre fille Sarah vient d'accoucher, Nina June est née donc le jeudi. C'est notre 11e petit enfant depuis 2010. Alors, c'est une bébé. Nina June, c'est un bébé. Elle est au lait. Elle est au lait maternel. Mais les mois vont passer. Les années vont passer. Et quand les années passent, il y aura une maturité. Amen. Alors, il y a des chrétiens qui restent au lait. On ne peut pas rester au lait. Il y a une nourriture solide vers laquelle Dieu nous invite. Alors, soyons un peuple de vérité. Soyons un peuple de vérité. Et basons-nous sur les 5 critères dont je vous ai dit. Est-ce que Jésus l'a fait? Est-ce que Jésus l'a enseigné? Est-ce que c'était pratiqué dans l'Église néo-testamentaire, l'Église primitive, donc au niveau des actes des apôtres? Est-ce que c'est mentionné dans les évangiles? Est-ce que c'est mentionné dans les épîtres? Dans lequel nous voyons comment Dieu a pris soin des brebis. Vous vous rappelez donc en Pierre chapitre 5, l'apôtre Pierre, verset 1, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui va être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous ont échoué en partage, mais en étant des modèles de troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous en vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et le chargez-vous celui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin. Seigneur, nous te remercions ce matin parce que tu veux que l'on soit un peuple de vérité, qu'on soit des pratiquants. Nous ne pouvons pas être des croyants sans être pratiquants. Et si tu parles à nos cœurs, laisse comprendre, Seigneur, qu'il y a des exigences en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des exigences en tant que membres que nous sommes les uns les autres dans le corps de Christ. Seigneur, c'est pour cela que chaque personne qui vient ici pour la première, deuxième, troisième fois, qui commence à regarder peut-être de loin, à voir qu'est-ce que c'est la foi, à voir qu'est-ce que c'est de vivre dans une vie de pureté, dans une vie donc, dans laquelle nous sommes entièrement soumis à la volonté de Dieu. Seigneur, qu'ils aient un désir de devenir disciples de Jésus, mais Seigneur, d'être sauvés, d'être guéris, d'être libérés, d'être libérés, Seigneur, des chaînes, d'être libérés des pièges dans lesquels le diable les a placés. Je te demande, Seigneur, que par ta révélation, Seigneur, tu te manifestes et tu te révèles au cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, faire ta volonté. Nous voulons accomplir ta volonté et servir afin que tes desseins éternels s'accomplissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous sommes un peuple de vérité. Et la vérité nous affranchit. Et la vérité, c'est là où l'Esprit de Dieu est là, et la liberté. Pour pouvoir, justement, pratiquer l'enseignement que nous avons reçu de ta part. Et c'est au pouvoir, Seigneur, vivre la foi. Et que ce monde puisse voir, Seigneur, le témoignage dans nos vies et dans nos cœurs. Et qu'il puisse voir l'amour qu'il y a entre nous. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes ici par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Amen.